Bienvenue sur Eco-Radio, la bio-radio qu'il vous faut.
Aujourd'hui dans notre émission, de nouvelles chroniques, reportages et interviews. Il va être question de réduction des déchets, de consommation responsable, des océans et de biodiversité.
Le portrait de la semaine sera consacré à la jeune militante écologiste Greta Thunberg et on vous amènera en reportage au cœur de l'écolieu La Main Gaultière et tout de suite, coup de projecteur sur une entreprise locale spécialisée dans la valorisation des déchets.
On jette chaque année dans le monde plus de 2 milliards de tonnes de déchets, avec toutes les conséquences que l'on connaît sur la pollution des sols, de l'air et des océans. Pour limiter ce phénomène, des entreprises inventent des solutions. Nathan, Maël et Valentin nous en parlent.
Oui, il y en a une près d'ici, à Vivonne. Elle s'appelle Poitou Polystyrène et son activité, c'est de récupérer le polystyrène qui est jeté. Elle en fait de l'isolant pour des maisons, du rembourrage pour du mobilier de maison, des maxi-coussins et des poufs. La collecte se fait dans le Grand Ouest, de la Charente au Maine-et-Loire, auprès de la collectivité et des professionnels.
Depuis sa création en 2014, ce sont 250 000 mètres cubes de polystyrène qui ont été recyclés, soit l'équivalent de 100 piscines olympiques ou 3 000 semi-remorques. Leur modèle de valorisation du polystyrène ne génère aucune création de déchets.
Même la poussière obtenue lors de la phase de broyage est valorisée en pain de PSE. Les cartons et films plastiques identifiés lors de la phase de tri sont également recyclés par des partenaires locaux. Avant la création de l'entreprise, les déchets de polystyrène étaient enfouis ou incinérés sur notre territoire.
Voitures, camions, bus et avions, tous ces moyens de transport polluent énormément. On va en parler avec Cassandre, Élise et Inès.
En effet, le transport est le deuxième contributeur de gaz à effet de serre derrière la production d'énergie et d'électricité. Et encore, ne sont pas prises en compte les émissions dues aux infrastructures.
Les émissions de CO2 des transports dépendent de plusieurs facteurs. La distance totale parcourue, le nombre de passagers par véhicule, le carburant utilisé ou encore le type de trajet.
Quel est le moyen de transport qui pollue le plus, Élise ?
La voiture est le moyen de transport le plus polluant au monde. En deuxième place se situe l'avion, ensuite se place le camion et enfin le bus. La route, voiture et camion a ainsi généré 5,85 gigatonnes de CO2 en 2016 selon l'AIE, Agence internationale de l'énergie. Or, les statistiques montrent un nombre toujours plus important de voitures en circulation dans le monde, ainsi qu'une explosion du trafic aérien et du commerce mondial de marchandises.
Quelles sont les conséquences sur la santé des humains et sur l'environnement, Inès ?
En raison de la pollution, les transports peuvent avoir des impacts sur la santé en lien avec la pollution atmosphérique, l'insécurité routière, le bruit ou l'inactivité physique. Le secteur du transport est le premier émetteur de gaz à effet de serre et ses impacts sur l'environnement sont nombreux. Pollution de l'air, de l'eau, nuisances sonores, modification des paysages ou encore contribution au changement climatique.
Qu'est-ce que la mobilité douce et dans quel cas l'utiliser, Cassandre ?
La mobilité douce désigne l'ensemble des déplacements non motorisés comme la marche à pied, le vélo, la trottinette, tous les moyens de transport respectueux de l'environnement. Les bénéfices de ces déplacements sont nombreux. Réduction de la pollution, augmentation de l'activité physique, meilleure santé physique, augmentation de la qualité de vie. Elle réduit les impacts des activités humaines, notamment sur les déplacements, et améliore la qualité de vie et les conditions de transport. Puis c'est quand même super stylé de venir au travail en trottinette ou en skate.
Et tout de suite, le reportage de la semaine avec Colline, Lola et Apolline. Vous nous emmenez dans un écolieu.
Nous nous sommes rendus à La Main Gaultière, dans la commune de Boulogne.
Dans ce lieu, 16 personnes ont racheté une immense ferme pour le transformer en écolieu.
Nous avons rencontré deux des propriétaires pour qu'elles nous expliquent leur projet et leur choix.
Donc toute la zone qui est habitée et là qu'on va visiter, il y a à peu près 3-4 hectares. Et après, en dehors, il y a 11 hectares en plus.
Oui.
On va tourner à droite.
Et vous allez faire quoi là?
Bah, je vais vous montrer après, on va d'abord tourner par là et on va vous expliquer après.
Bah, bonjour, moi je suis Agathe Leclerc et j'ai bientôt 32 ans.
On peut s'arrêter là si vous voulez.
Bonjour, je suis Vanessa Coste et j'ai 29 ans.
Quelle est votre définition d'un écolieu?
Alors c'est une très bonne question, il y a plein de définitions possibles pour un écolieu. Je pense que nous, notre vision de l'écolieu, c'est un endroit qui permet, en tout cas à La Main Gaultière, de vivre en harmonie avec le vivant et un endroit qui regroupe plein d'activités différentes.
Pourquoi avez-vous décidé de créer un écolieu ?
Bah, notre but, c'était de se rapprocher de la nature. Je pense qu'on était tous urbains dans ce projet et on avait envie de renouer avec le vivant.
Pourquoi ?
On trouvait qu'on était beaucoup trop éloigné de la nature, en fait. Et on a ressenti ce besoin-là intérieurement et personnellement. Donc c'est une démarche personnelle avant tout. Et on a voulu le faire collectivement pour donner l'exemple aussi aux gens qui nous entourent.
Pourquoi vous avez décidé de vous installer à cet endroit précisément ?
C'est un peu un heureux hasard, on n'est pas trop de la région, il y en a 4 sur 6 qui sont plutôt lillois, Vanessa qui vient d'Agen et moi de région parisienne. Et en fait on a pas mal d'attaches pas très loin d'ici, près de La Rochelle, et on est tombé sur cet endroit, sur la Mingotière, on a tous eu un coup de cœur et on a trouvé l'endroit magnifique, donc on s'est installé ici.
Alors en fait, le principe, quand on réfléchit, forêt-jardin, qu'est-ce que ça peut être ? On appelle ça aussi une forêt comestible.
Ouais. Comment vous voulez améliorer l'environnement, l'ensemble avec l'écolieu ?
Alors comme on a pu le voir dans la balade, il y a beaucoup de végétation ici. Et nous, on a envie de prendre soin et de préserver les écosystèmes qui existent déjà. Par exemple, on vous a parlé du bassin naturel qu'on voudrait faire à la place de la piscine, du coin boisé qu'on aimerait repeupler, on va dire, dans lequel on voudrait replanter des arbres. Et puis, on veut favoriser toute la biodiversité, permettre aux animaux de s'épanouir ici, de faire des sèches pour accueillir les insectes et les oiseaux. Voilà. C'est plein de petites démarches qui nous permettent de prendre soin de l'environnement.
Quelles sont les différentes activités qui se déroulent ici ?
En fait, on a 3 pôles d'activité. On a l'accueil, la production et la transmission. Donc l'accueil, c'est le fait de recevoir du public, donc vous notamment, mais aussi des touristes avec le gîte rural qui ouvrira normalement cette année. La production, donc il y a des activités artisanales. Donc Agathe, elle fait traiteur végétarien. Moi, je brasse de la bière. Baptiste fait du pain au levain. Et Laure, des créations originales à partir de fleurs séchées. Et la transmission, c'est transmission de savoir, que ce soit sur les activités artisanales. On aimerait bien faire des ateliers, mais aussi partager notre amour du vivant avec des formations sur la permaculture. Je crois que c'est à peu près tout.
Expliquez-nous ce qu'est la permaculture.
Alors la permaculture, c'est un peu une philosophie, on va dire. C'est une manière de penser et de voir le monde. Le but, c'est de prendre soin de soi, de prendre soin de l'environnement et de partager les ressources équitablement. C'est ça un peu les 3 piliers de la permaculture. Et ça peut s'appliquer aussi bien au jardin, au potager, par exemple, de réussir à faire des associations de plantes qui vont être complémentaires et bénéfiques les unes pour les autres. Et ça peut s'appliquer aussi à l'humain. Par exemple, nous, dans notre organisation, nos activités, plutôt que de fonctionner chacune dans un coin, elles fonctionnent tout ensemble, en synergie. Du coup, les interactions qu'elles vont créer vont être encore plus riches que si elles étaient pensées individuellement.
Quel est votre parcours pour en arriver là ?
On a à peu près, je dirais, les mêmes parcours parce qu'on a soit fait une école de commerce ou soit de la communication, à part pour Laure qui a un peu travaillé, qui a fait des études dans le design et dans le design. Mais globalement, on a fait des bacs plus 3-5 en communication. Et on a travaillé soit dans la communication ou dans des grands groupes, sauf pour Laure qui a travaillé dans l'industrie du textile. Je pense qu'on avait tous envie de vivre différemment, de montrer que d'autres modes de vie existent et de le partager.
Si je peux me permettre, juste pour compléter, en fait, on a tous suivi ces parcours-là et je pense qu'à un moment donné, on a testé ces expériences-là, ces expériences professionnelles. Et puis, on a un peu remis en question ces premiers choix de vie qu'on avait pu faire en se rendant compte qu'il nous manquait un peu quelque chose. On avait besoin d'un peu plus de sens et probablement d'un peu de reconnexion au vivant. Et du coup, tous les 6, on a un peu pris ce virage-là, chacun à notre manière. Et on s'est retrouvés autour de ce projet, du coup.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean.
C'est une des figures majeures de la lutte contre le réchauffement climatique au niveau mondial. Greta Thunberg est une jeune Suédoise qui s'est fait connaître il y a maintenant 4 ans. Léa, Roman et Noémie nous en font le portrait.
Greta Thunberg proteste durant l'été 2018 devant le Parlement suédois contre l'inaction face au réchauffement climatique. Elle est alors âgée de 15 ans. En novembre 2018, elle lance la grève scolaire pour le climat. Le mouvement se propage dans le monde entier. Des millions de jeunes la suivent dans son combat. Pour éviter de voler en avion, elle navigue en mer jusqu'en Amérique du Nord où elle assiste au sommet des Nations Unies pour l'action climatique de 2019. Dans son discours, elle prononce devant les plus grands hommes politiques le « How dare you ?» Comment osez-vous ?
How dare you ? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones.
Elle est régulièrement critiquée par les détracteurs qui disent qu'elle est trop jeune et qu'elle devrait retourner à l'école. En 2019, le député RN Sébastien Chenu parlait, je cite, d'une gamine de 16 ans devant laquelle il faut plier le genou. Autre critique régulière à propos de la manière dont elle se déplace pour alerter le monde. Beaucoup la soupçonnent de prendre l'avion.
How dare you!
Aujourd'hui, Greta Thunberg est beaucoup moins visible dans les médias, mais pour elle, le combat continue. À Stockholm, la capitale de la Suède, les grèves scolaires pour la justice climatique n'ont pas cessé non plus, comme dans beaucoup d'autres villes de la planète.
Et maintenant, en bref, petite plongée dans les océans et leur dégradation avec Mathis, Charlie et Yanis.
Un point sur la surpêche avec toi, Mathis. Alors, c'est quoi la surpêche ?
La surpêche, c'est lorsqu'on pêche trop par rapport aux réserves de poissons. On risque donc de voir les stocks de poissons s'effondrer l'un après les autres. Les exemples d'espèces les plus connues et les plus touchées par la surpêche sont le thon albacore, largement surexploité, ou encore la morue de Terre-Neuve, qui a été pêchée pendant 5 siècles, avant de voir sa population s'effondrer au fil du temps. Selon plusieurs études, la surpêche touche aujourd'hui tous les océans.
L'acidification des océans, c'est un problème, Mathis. Tu peux nous expliquer ce que c'est ?
L'acidification des océans, c'est la baisse progressive de pH des océans causée par la population humaine. L'océan devient de plus en plus acide. Sa conséquence principale, c'est qu'elle affecte la capacité de plancton océanique à se renouveler. Or, le plancton, c'est la base de l'alimentation des baleines, des requins et de nombreux animaux d'invertébrés. Toutes ces espèces sont donc menacées. Enfin, le plancton contribue à l'oxygénation des océans et donc à la production de l'oxygène de l'atmosphère. Si la quantité de plancton s'effondre, cela aura des conséquences sur la quantité d'oxygène de l'air que nous respirons.
Dernier sujet, celui dont on s'inquiète le plus, c'est celui de la montée des eaux. Yanis.
L'élévation du niveau de la mer est un des nombreux effets du réchauffement climatique. Le niveau moyen des océans a augmenté d'environ 23 cm depuis 1880 et de 7,5 cm ces 25 dernières années. Aujourd'hui, cela a des effets dévastateurs sur les habitats côtiers. 280 millions d'êtres humains seront obligés de quitter leur maison qui sera sous les eaux d'ici 2050. On estime que 40% de l'humanité vit à moins de 100 km d'une mer ou d'un océan.
Consommer local, c'est le plus respectueux pour la planète. Et on sait aussi que la consommation de viande a un très fort impact sur l'environnement. Jade, Alexandra et Sarah ont rencontré François Guillard. Il est professeur de SVT au collège André Bourrier, où il a notamment mis en place un jardin pédagogique. Il explique ce qu'il fait pour limiter son empreinte écologique.
Concrètement, moi je fais pas mal de choses. Déjà, il y en a une que je fais depuis 2014-2015, c'est que je ne mange plus de viande. Donc ça, l'impact écologique étant assez important dans l'agriculture intensive, on sait que ça libère beaucoup de gaz à effet de serre. Le fait de ne plus en manger, ça me permet du coup d'avoir ce côté positif là sur mon impact carbone qui est plus faible. Voilà. Ensuite, j'essaye au mieux de pas me déplacer, enfin le moins possible avec mon véhicule avec moteur thermique. Hein, donc j'essaye de me déplacer le plus à vélo. Et en plus de ça, au niveau de juste le choix de mon métier, le fait d'être prof d'SVT, ça me permet de transmettre des notions et des savoirs aux enfants sur le développement durable, l'écologie. Voilà.
Consommez-vous local au quotidien ?
Alors je consomme le plus possible local, mais non, au quotidien je réussis pas, je fais quand même des courses dans les grandes surfaces Intermarché. Voilà, après le plus possible j'essaye de faire de l'agri local. Voilà. Donc, et le lien que j'ai, c'est ce qu'on appelle le clic paysan à Lusignan qui fait que du local, mais c'est très compliqué de consommer que au clic paysan. Voilà.
Au collège, vous avez mis en place un jardin pédagogique. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Alors effectivement, depuis 2018, j'ai mis en place le jardin pédagogique. Donc le but, c'est de travailler avec, peu importe le niveau d'ailleurs, tous les élèves du collège et de découvrir des savoir-faire au niveau du jardinage et du bricolage et de pouvoir observer la biodiversité et, voilà, et de prendre le temps de bricoler, de mettre en place des projets en lien avec l'environnement.
Pour vous, quel est le lien entre le jardin pédagogique et consommer responsable?
Eh bien, le lien, justement, c'est ça, c'est de ne plus dépendre des grandes structures qui nous apportent des aliments qui proviennent de loin et donc qui nécessitent des transports et donc du dioxyde de la production de CO2, etc., et donc qui polluent, et justement de cultiver soi-même ces aliments pour s'alimenter dans son environnement, dans son jardin, etc.
C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir écouté Éco-Radio, la bio-radio qu'il vous faut, un programme réalisé par la classe de 6e B dans le cadre de la résidence Éclaircie Média Printemps 2022.